Il est midi et demi en temps universel, 13h30 ici à Paris, et c'est l'heure d'Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Anne Kantner, bonjour à toutes et à tous. Une alternance inédite au Botswana. Duma Boko a prêté serment ce matin comme président après sa victoire aux élections qui a mis en déroute le BDP au pouvoir depuis l'indépendance. Une offensive terrestre en préparation dans la région du lac Tchad après l'attaque meurtrière d'une faction de Boko Haram contre une base de l'armée tchadienne. Le président Mahamat Idriss Déby est sur place pour conduire les opérations. L'épidémie de monkeypox sans léger ralentissement sur le continent africain. L'Africa CDC, le centre africain de contrôle et de prévention des maladies, met tout de même en garde. L'épidémie continue sa progression. De quoi le rejet de la France en Afrique est-il le nom? C'est le titre d'une étude du réseau Pro-Démocratie Tournons la Page et du Centre de Recherches Internationales de Sciences Po. Ils ont interrogé plus de 500 militants de la société civile dans 6 pays d'Afrique francophone.
Dan Sanaren est l'un des auteurs de cette étude et il est notre invité.
C'est donc une journée historique au Botswana qui connaît pour la première fois depuis son indépendance l'alternance politique. Une semaine après la victoire de la Coalition pour le changement démocratique sur le BDP au pouvoir depuis 1966, son candidat Duma Boko, 54 ans, a prêté serment ce matin. La cérémonie d'investiture s'est déroulée dans un stade de Gaborone, la capitale, Claire Bargelès.
Costume bleu ciel, chemise blanche et cravate noire, le tout aux couleurs du pays, Duma Boko a été accueilli sous les ululements et les cris de joie pour prêter serment.
Moi, Duma Gideon Boko, je jure que je remplirai mon rôle de façon fidèle et assidue et que je m'acquitterai de mes fonctions au haut poste de président de la République du Botswana.
Dans les gradins se trouvaient les chefs d'État de la Namibie, de la Zambie, du Zimbabwe et on comptait aussi tous les anciens présidents encore en vie du Botswana ainsi que des chefs de partis d'opposition d'Afrique australe pour montrer, au-delà des divisions politiques, une certaine forme d'unité derrière la démocratie. Et c'est sur ce point que l'ancien avocat, désormais à la tête du pays, a insisté au cours de son discours.
Nous sommes devenus, encore une fois, un cas d'étude intrigant en matière de démocratie en marche, qui n'est pas simplement une idée abstraite et dont le monde pourra tirer des enseignements. Vous n'avez pas pris une décision facile, je le sais, et même à présent, il y a une petite voix dans votre tête qui se demande « Ai-je fait le bon choix ?» Vous pourrez répondre de vous-même à cela d'ici 5 ans. Et c'est toute la beauté de la démocratie.
Duma Boko va désormais devoir s'attacher à redresser la situation économique du pays et notamment se pencher sur l'avenir du secteur des diamants, la principale ressource du Botswana. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
Au Comore, on apprend ce matin qu'un homme suspecté d'être le chef du réseau de passeurs impliqué dans le naufrage qui a fait 25 morts entre Anjouan et Mayotte a été arrêté. Il est le propriétaire du bateau, l'un des 5 survivants de ce naufrage survenu le 1er novembre, a raconté que les passeurs avaient coulé l'embarcation qui transportait une trentaine de personnes. Les passeurs avaient ensuite pris la fuite en hors-bord. L'heure est à la riposte 10 jours après l'attaque d'une faction de Boko Haram contre une base militaire tchadienne dans la région du lac. Une 40aine de soldats avaient été tués. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby est sur place. Il dirige personnellement les opérations et il s'est exprimé hier soir face à la presse présidentielle.
En tant que soldat, je sais que pour prendre de bonnes décisions en ce qui concerne la sécurité, il faut être sur le terrain. Nous avons fait plusieurs frappes des positions ennemies, ils ont eu beaucoup de morts et beaucoup de blessés. Nos forces terrestres sont prêtes et maintenant ils vont aller directement vers l'ennemi, l'anéantir.
Le Tchad envisage son retrait de la force mixte multinationale. Qu'est-ce qui sous-tend cette intention?
Notre pays, le Tchad, s'est engagé contre le terrorisme depuis 2013. À chaque fois qu'il y a des problèmes dans ces pays voisins, nous, on déploie nos soldats. Mais quand notre pays, le Tchad, est frappé par l'ennemi, aucun soutien. Donc, pour moi, il est temps que l'armée se concentre sur la protection de nos citoyens et de notre territoire. Il n'y a pas de solidarité pour laquelle cette force multinationale a été créée. Donc, s'il n'y a pas de solidarité, elle n'a aucun intérêt pour notre pays.
Mahamat Idriss Déby, hier soir, des sources locales assurent que les frappes aériennes dont parle le président tchadien ont fait des victimes civiles côté nigérian. Ce que dément le gouvernement de N'Djamena. En Centrafrique, les audiences ont repris cette semaine à la Cour pénale spéciale de Bangui après plusieurs mois de suspension. Quatre suspects comparaissent devant ce tribunal hybride qui juge les violations des droits de l'homme perpétrées depuis 2003. Ces quatre hommes sont accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité en mars et avril 2020 à Ndélé, dans l'est du pays. Cette semaine, l'accusation a présenté ses éléments. À Bangui, Rolf Stef Domielle.
En prenant la parole, l'accusation a présenté un document détaillé sur la chronologie des événements et l'implication des accusés Azor Khalid, Charfadine Moussa, Antar Amat, Oscar Wordiolo Drogba. Ils sont poursuivis pour des crimes commis en 2020 au cours des affrontements opposant deux factions armées du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique FPRC, provoquant plusieurs dizaines de morts dans le rang des Goulas et Runga, deux ethnies de la ville de Ndélé. Selon Maître Albert Panda, avocat de la partie civile, les combattants portaient tous un foulard jaune et ce signe distinctif a été retrouvé sur les accusés. Les quatre accusés ont été arrêtés avec un arsenal de guerre. Cela démontre qu'ils sont des combattants, a-t-il expliqué. Après l'accusation, le parquet spécial a pris la parole pour démontrer la nature des crimes. Selon Alain Tolmo, l'un des procureurs, des cas de tuerie, pillage, mutilation, viol, torture, atteinte à la santé mentale et physique des personnes commis lors de ces événements sont qualifiés de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le parquet spécial demande à la cour de condamner les présumés coupables à des peines allant de 20 à 30 ans de prison. L'audience se poursuit ce vendredi avec la prise de parole de la défense. Rolf Steve Tomerle, Bangui, RFI.
L'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou de retour à Niamey après un voyage à Addis Abeba au cours duquel il a présenté son rapport en tant que président du panel de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel. L'ex-chef de l'État, discret sur la scène intérieure depuis le coup d'État de juillet 2023 qui a renversé Mohamed Bazoum, a effectué plusieurs déplacements à l'étranger au cours des derniers mois, Magali Lagrange.
Mahamadou Issoufou apparaît aux côtés du président de la commission de la CDAO sur les photos prises à Addis Abeba, où il s'est rendu en tant que président du panel de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel, comme à Dakar, il y a un mois, quand il avait été reçu par le président Bassirou Diomaye Faye. Son autre titre de champion de la SLECAF l'a conduit au Rwanda et aux Bahamas. Mahamadou Issoufou veut garder une place sur la scène internationale, d'autant que ses options au Niger sont réduites, selon plusieurs analystes. À Niamey, il sort peu, la capitale n'est pas très favorable à l'ancien chef de l'État, relève un observateur. Il précise, beaucoup estiment, à tort ou à raison, qu'il est à l'origine de la situation actuelle. Mahamadou Issoufou est en revanche toujours soutenu par une frange de son parti, le PNDS. Il reçoit beaucoup dans sa villa protégée par l'armée. À ceux qui voient sa liberté de mouvement comme un signe de proximité avec le CNSP, un ancien député PNDS répond « D'autres anciens chefs d'État sont libres de leur mouvement. Ce n'est pas parce qu'il appartient au même parti que le président renversé qu'il doit être inquiété. »
Les tensions politiques au Ghana à un mois de l'élection présidentielle. Le fichier électoral est toujours contesté par le principal parti d'opposition, le NDC. Et le Parlement a été nouveau suspendu pour une durée indéterminée en raison de l'absence cette fois des députés du NPP au pouvoir, Victor Cario.
Un blocage critique et inédit de par les circonstances. Voici comment Sami Obeng, directeur du Parliamentary Network Africa, a décrit la situation en cours après le nouvel ajournement du Parlement. Contacté par RFI, le spécialiste de la vie parlementaire ghanéenne a notamment pointé deux risques majeurs, l'impossibilité d'adopter le budget 2025, mais également l'aggravation des tensions entre les deux principaux partis politiques à seulement un mois de l'élection présidentielle. À l'origine de cet ajournement, le refus des députés du nouveau parti patriotique de siéger au Parlement, ce tant que le speaker Alban Bagbin n'aura pas rétabli les sièges des quatre parlementaires qu'il a précédemment déclarés vacants. L'autre problème en cours concerne le fichier électoral, une nouvelle fois refusé par le Congrès démocratique national, un veto de dernière minute maintenu tant que, je cite, « le NDC n'aura pas toutes les informations demandées ». Pas de quoi cependant mettre en péril le bon déroulé du scrutin, a assuré à RFI la commission électorale. Victor Cariou, Accra, RFI.
L'actualité électorale à l'île Maurice, cette fois où la campagne en vue des législatives de dimanche s'achève ce soir. Une campagne calme, mais marquée tout de même par le scandale des écoutes téléphoniques de ministres, juges, policiers ou hauts fonctionnaires dont les enregistrements ont largement circulé en ligne, des leaks, des fuites qui ont conduit les autorités à bloquer temporairement les réseaux sociaux pendant 24 heures. Une péripétie inédite à l'île Maurice, comme le rappelle la directrice de Transparency International Maurice, Laura Jaiman-Egal.
Nous avons eu les leaks, des appels téléphoniques, des membres du gouvernement ou des proches du gouvernement qui sembleraient démontrer des abus de pouvoir ou des ingérences politiques dans des décisions d'État. La nouveauté, ce sera certainement les leaks et aussi tout ce qui s'est passé par rapport aux réseaux sociaux. La semaine dernière, c'est quand même quelque chose qui n'est jamais arrivé d'avoir les réseaux sociaux bannis. Ça n'a duré que 24 heures, mais l'annonce avait été faite pour toute la semaine récente de la campagne. Nous avons vu la frustration des Mauriciens par rapport à cette décision. Nous avons vu aussi comment le gouvernement est très vite revenu sur la décision, a donné l'accès aux réseaux sociaux dès le lendemain. Donc c'est quand même des événements qu'on n'a jamais vus dans l'île, qu'on n'a jamais vus lors des campagnes précédentes. Et nous ne savons pas encore l'impact de ces événements sur l'élection de dimanche. Mais pour le moment, tout se passe dans un calme apparent. Nous espérons que le vote dimanche se fera aussi dans le calme. Nous attendons bien sûr les résultats de lundi.
Des propos recueillis par Abdoulaye Rali. L'épidémie de monkeypox en léger ralentissement en Afrique, c'est ce qui ressort des derniers chiffres communiqués par l'Africa CDC. Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies met tout de même en garde, même si la vitesse de propagation du virus diminue, l'épidémie continue sa progression. Alexandra Branjon.
Selon Africa CDC, 11 450 nouveaux cas ont été enregistrés au cours des quatre dernières semaines, contre 12 800 les quatre semaines précédentes. Un ralentissement certes, mais l'épidémie continue de progresser, met en garde Jean Kaseya, directeur général du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies.
En avril, quand nous avons alerté la communauté internationale de la présence du Mpox, nous n'avions que 6 pays affectés et 300 morts. En août, nous sommes passés à 13 pays affectés, 23 000 cas et 600 morts. Aujourd'hui, le nombre de cas a doublé, nous avons plus de 1080 morts et 19 pays touchés.
Épicentre de l'épidémie, la République démocratique du Congo totalise à elle seule 80% des cas. La vaccination y a démarré il y a un mois, mais reste encore limitée, déplore Africa CDC, avec quelques 51 000 personnes vaccinées sur une population de plus de 100 millions. Près de 900 000 doses de vaccins ont été allouées ces derniers jours aux 9 pays africains les plus durement touchés. Il s'agit de la première allocation sur les près de 6 millions de doses de vaccins qui devraient être disponibles d'ici la fin de l'année.
Il est 13h43 à Kinshasa.
Afrique Midi sur RFI.
Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, nous verrons que le Bénin est en bonne place à la foire internationale de l'importation qui se déroule jusqu'à dimanche à Shanghai. Et les sports du football et la Ligue 1 ivoirienne, la FAD est en tête. Elle affronte ce soir la SOA à Yamoussoukro. La foire internationale de l'importation à Shanghai en Chine fait cette année une large place aux produits alimentaires et agricoles du continent africain. Le Bénin participe cette année encore en force. Reportage Cléa Broderst.
Au pavillon du Bénin, on trouve le produit phare, l'ananas pain de sucre, mais également la noix de cajou, du miel, de la karité ou du soja. Abdelaziz Bouraïma, en charge de la promotion des exportations à l'Agence de promotion des investissements et des exportations du Bénin.
Les consommateurs chinois sont relativement friands de produits tropicaux tels que les nôtres. La demande est extrêmement importante. Ça représente une opportunité intéressante pour nous.
Les nouvelles routes de la soie commencent à atteindre le pays et avec elles, les Green Lanes, la simplification des procédures douanières visant à améliorer l'efficacité commerciale entre la Chine et les pays africains.
Les facilitations dans les procédures d'exportation vers la Chine, c'est un sujet qui est constant. On va dire qu'aujourd'hui, la Chine fait partie des pays vers lesquels nous exportons. Nous avons notamment un certain nombre d'accords préférentiels pour certains produits d'exportation, notamment l'ananas dont je parlais et le soja.
Aujourd'hui, aucun doute, la Chine est l'un des marchés les plus prometteurs pour le Bénin.
Question de taille déjà, de proportion. Mais évidemment, le marché chinois a la particularité, en comparaison aux autres marchés européens notamment, d'être également un marché extrêmement rémunérateur, mais un marché très demandeur. Nous sommes vraiment en train d'essayer de dynamiser nos exportations vers la Chine.
Pour Abdelaziz Bouraïma, si les relations historiques avec certains marchés vont perdurer, la Chine est toutefois devenue une cible prioritaire. Claire Broderst, Shanghai, RFI.
Depuis le début de la semaine, vous retrouvez sur les plateformes de RFI notre podcast Le Mystère du 27e Trésor. On parle de la 27e pièce du trésor royal d'Abomey, disparue depuis des années et finalement retrouvée en Finlande. Cette pièce, c'est un cataclé, un tabouret royal à trois pieds. Le ministre béninois des Affaires étrangères, Olusegun Ajadi Bakari, vient de se rendre à Helsinki pour discuter du retour de ce cataclé au Bénin. La restitution a été validée. Alain Godounou, le chargé de mission au patrimoine et au musée du président Talon, était dans la délégation.
Nous avons vu le cataclé, qui est en très bon état. Nous avons discuté, échangé avec les collègues finlandais. Et techniquement, les choses sont claires au point. Et donc, le cataclé est prêt à rentrer au Bénin.
Et il rentrera à quel moment, à quelle échéance? On parle de jours, de semaines, de mois?
Oh, disons deux semaines et deux mois. Maintenant, il faut voir selon le calendrier, notamment des officiels finlandais, parce qu'ils souhaitent faire le déplacement au Bénin. Donc, il y a une coordination des différents agendas, le béninois et finlandais, a réussi pour trouver la bonne date.
Vous disiez, j'ai pu voir le cataclé. Est-ce que vous avez noté des choses particulières sur cette pièce?
Évidemment, moi, j'étais parti avec une image très précise du cataclé que nous avons au Bénin parmi les 26 œuvres pour pouvoir faire tout de suite la comparaison. Et il est évident que c'était une paire.
Ce qui vous fait dire que c'est une paire, c'est parce qu'il y a des marques similaires sur les deux cataclés?
Absolument. Il y a des marques similaires et plus que des marques similaires du point de vue design, esthétique. Il y a quelques traces parfaitement similaires aux mêmes endroits.
Propos recueillis par Pierre Firsion, l'histoire de ce cataclé est à découvrir dans Le Mystère du 27e Trésor, un podcast de RFI sur tous nos environnements numériques. Les sports du football et le championnat de la Ligue 1 ivoirienne, étonnant leader, la FAD est sur une lancée de 5 victoires et 2 matchs nuls et affronte ce soir la SOA à Yamoussoukro. L'équipe est portée par deux dirigeants qui comptent dans le football ivoirien, Yassine Idriss Diallo et Jacques Anouma. Reportage Yuen Gourlet.
Avant la 8e journée, les joueurs de la FAD s'entraînent avec rigueur sur le terrain synthétique du Biafra de Trècheville à Abidjan. L'objectif, conserver cette première place au classement, qui est une heureuse surprise au sein du club. Topio Koulibaly, le capitaine de l'équipe, ne s'y attendait pas.
Sincèrement, on a fait la préparation comme d'habitude avec beaucoup d'inquiétude. Parce que lors des matchs amicaux, il y avait beaucoup de petits problèmes qui n'étaient pas encore résolus. Et après, l'entame du championnat nous prouve qu'on a bien fait de ne pas gagner tous nos matchs amicaux. Ça nous a permis de nous remettre en question.
La philosophie du club fondée en 2005, former des joueurs de talent et les revendre à bon prix. L'effectif est donc sans cesse renouvelé, ce qui n'a pas empêché la FAD de terminer aux alentours de la 5e place ces dernières années. Un niveau maintenu aussi grâce à deux noms qui comptent dans le football ivoirien, le vice-président du club Yassine Idriss Diallo et le président du conseil d'administration Jacques Anouma. Le premier est président de la Fédération ivoirienne de football, le second le fut de 2002 à 2011. Jacques Anouma le concède. Le carnet d'adresses facilite parfois les choses.
Je ne vous cache pas que c'est peut-être plus facile, parce qu'il y a quand même cette confiance. Et puis la plupart des dirigeants d'entreprise me connaissent. C'est notre bébé, voilà. Le président de la Fédé, moi, c'est vraiment notre bébé. On essaie de faire en sorte que ce club devienne grand.
Grâce à ce début de saison, le club vice-champion de Côte d'Ivoire en 2011 et 2012 vise cette année le podium pour jouer une Coupe africaine l'année prochaine pour les 20 ans du club. Yuen Gourlet, Abidjan, RFI.
Midi 48 à Abidjan. Les grands titres de ce vendredi 8 novembre.
Des condamnations en cascade après les violences d'hier soir à Amsterdam à l'issue du match qui opposait l'Ajax au Maccabi Tel Aviv. Les images montrant des supporters israéliens menacés, malmenés, contraints de crier « Free Palestine » ont fait le tour du monde. La tension était très vive avant même le début du match. Certains des supporters israéliens agressifs disent des témoins. Et depuis ce matin, les dirigeants occidentaux en France, aux Pays-Bas, à Bruxelles, en Allemagne, tout comme les Nations Unies, dénoncent des actes antisémites et disent leur indignation. Israël a envoyé un premier avion pour rapatrier les supporters et le ministre des Affaires étrangères est attendu aux Pays-Bas. De quoi le rejet de la France en Afrique est-il le nom ? Pour le comprendre, pour répondre à cette question, le réseau Pro-Démocratie Tournons la Page et le Centre de Recherches Internationales de Sciences Po, le CERI, ont interrogé plus de 500 militants de la société civile dans 6 pays, le Niger, le Bénin, le Gabon, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Tchad. L'étude issue de ces entretiens est parue cette semaine. Dan Sanaren est l'un des auteurs de cette étude et il est votre invité, Nicolas Sueur.
Bonjour Dan Sanaren.
Bonjour.
Premier point qui fait réagir les personnes que vous avez interrogées, c'est l'expression « sentiment anti-français » qui a le vent en poupe dans les médias. Votre étude montre un rejet quasi unanime de la politique française en Afrique, mais cette expression de sentiment anti-français, elle, dérange beaucoup. On vous dit cette expression est fausse, pourquoi ?
Oui, absolument. Donc c'est un rejet qui est massif. L'expression n'est pas employée en Afrique. En effet, elle est perçue comme quelque chose qui est injustement vu comme émotionnel et irrationnel. Alors que, en effet, il ne s'agit pas d'une remise en cause des citoyens français, mais il s'agit d'une critique de l'État et des décideurs et de la politique française en Afrique, qui est bien ancrée dans des situations très contemporaines. Donc, c'est un terme qui mobilise et qui renvoie de manière assez implicite à un racisme anti-français en Afrique, tout en donc minimisant la critique de l'ex-puissance coloniale, parce qu'il est donc complètement rejeté par ses militants, militants pro-démocratie, militants pro-droits humains, avec d'autant plus d'injustices vécues par eux, comme ils suivent souvent la politique interne de la France et donc voient d'un côté la montée des extrêmes en Europe, en France aussi, mais également donc la perception d'un racisme dont ils ont été pour certains aussi témoins eux-mêmes quand ils étaient en France. Donc voilà, c'est pour ça que cette expression de sentiment anti-français est absolument rejetée.
Oui, on vous dit même au contraire, hein, il y a un sentiment anti-africain en France et la montée très forte des discours racistes et xénophobes est perçue par les personnes que vous avez interrogées.
Exactement, oui, absolument.
Vos interlocuteurs s'inscrivent aussi en faux contre une autre affirmation, celle d'une manipulation des opinions publiques par des réseaux de propagande étrangers, russes notamment. Il y a, disent-ils, des faits, et ces faits sont passés en revue dans votre étude. Premier d'entre eux, la présence militaire française, elle est perçue comme importante et globalement inefficace. Qu'est-ce qui irrite le plus les personnes que vous avez interrogées ?
Alors, en effet, pour nos répondants à 80%, la France n'est pas un partenaire fiable. Et pour cause, on a d'abord une désillusion face aux interventions françaises au Sahel, pour le coup, et en Afrique plus générale, mais le Sahel a bien marqué les esprits. C'est-à-dire, on se demande comment une puissance militaire comme la France a pu perdre une guerre, a pu avoir un tel échec. Et puis, s'ajoute la perception d'une duplicité qui est surtout marquée par l'événement de Kidal en 2013, pendant l'opération Serval, où l'armée française a empêché donc l'armée malienne à rentrer dans la ville, le fief des rebelles Touareg, ce qui était vu comme un bafouement de la souveraineté malienne. Plus à l'international, c'est le double standard qui revient souvent, notamment avec l'Ukraine. L'Occident, la France sont vus comme apportant un soutien très très important qui dans l'Afrique n'a pas fait l'objet, notamment les pays sahéliens, avec des revendications plutôt que la France se retire et soit un partenaire comme les autres qui aide donc dans la formation et dans les équipements, mais qui ne se voit pas comme sauveur ou ne se déploie plus comme pour venir sauver et combattre les guerres des pays africains.
Il y a aussi le sentiment d'un deux poids deux mesures très fort, selon que les pouvoirs en place servent ou pas les intérêts de la France. Ce qui passe particulièrement mal, ce sont les condamnations à géométrie variable des coups d'État qui ont eu lieu en Afrique.
Absolument. En effet, le deux poids deux mesures revient très souvent avec l'exemple du Tchad qui est très marquant. Donc, on rapproche beaucoup à Macron de s'être rendu au Tchad après la mort de Déby père et d'avoir donc intronisé le règne de Déby fils, alors que en même temps, la France était en train de condamner les coups d'État militaires qui se passaient au Sahel central contre des gouvernements souvent très critiqués par la population. La France est restée souvent est perçue comme ayant resté très souvent comme silencieuse sur les questions des troisième mandats, sur les coups d'État constitutionnels, alors que justement ces coups d'État militaires ont fait l'objet de condamnations très rapides et très vocales, avec d'un côté les violences électorales et post-électorales qui sont très documentées dans certains pays. Et il faut ici rappeler que ces militants-là sont les premiers concernés par ces violences, ils font l'objet des répressions. Et donc, perçoit ça comme une grande violence faite envers eux, envers leur engagement, alors que pour ces militants-là, la confiance est plutôt portée vers des personnes qui vont affirmer une souveraineté, une refonte de la souveraineté, donc Assimi Goïta au Mali, Ibrahima Traoré au Burkina Faso, alors que les dirigeants comme Ouattara, Déby et Macky Sall, qu'on avait au moment de l'étude, sont vus comme finalement la seule des puissances étrangères et notamment de la France.
Pour finir, Dan Saranen, la France peut-elle changer de politique africaine ? Pour reprendre le titre, l'un de vos chapitres, qu'est-ce qu'en disent vos interlocuteurs ?
Elle le devra dans tous les cas, puisque depuis quelques années, ce rejet est massif, avec, on a vu le désengagement de la France dans plusieurs pays, et un changement s'impose dans tous les cas, et un changement qui doit s'opérer notamment, et ce que revendiquent les militants, c'est par l'écoute, par la capacité à prendre des critiques, et donc avec humilité. Ce qui ressortait beaucoup de cette étude-là, c'est que finalement, il y a l'idée que la France doit se départir de la posture où elle se considère soi-même comme ayant une vocation africaine. Elle doit se mettre en retrait en acceptant que finalement, elle sera un partenaire parmi d'autres et que dans certains cas, l'histoire de l'Afrique puisse aussi s'écrire sans la France. Et on revendique une cohérence dans sa politique étrangère, c'est-à-dire qu'on demande, si on veut se présenter comme le pays des droits de l'homme, de la démocratie, qu'on mette ça en avant de manière cohérente, qu'on mette la démocratie, les droits de l'homme au cœur de la politique étrangère et qu'on n'en dévie pas en fonction des différents régimes ou dirigeants amis ou non-amis.
Merci Dan Sanaren. Cet entretien sera retrouvé sur le www.rfi.fr et sur nos applications rubrique invité, onglet invité d'Afrique Midi. Ce sont des observations par satellite qui le révèlent. La montée du niveau des eaux des grands lacs d'Afrique de l'Est devient alarmante. Sur le lac Victoria, aux frontières de la Tanzanie, du Kenya et de l'Ouganda, les conséquences se font particulièrement sentir pour la grande île d'Ukerewe, dont la population vit essentiellement de la pêche. Le reportage de l'envoyé spécial de RFI, Elodie Goulesque.
Depuis la plage de Nansio sur les d'Ukerewe, la vue matinale du lac Victoria semble idyllique. Il suffit pourtant d'un simple regard pour observer plusieurs arbres engloutis par les eaux ici et là. Pascal est guide touristique et originaire de l'île. Il a vu le lac changer ces 5 dernières années.
Je me souviens, par là-bas, il y avait un grand arbre où on avait l'habitude de s'asseoir et manger. Mais ça, c'est de l'histoire ancienne, car il n'y a plus d'arbres, plus d'ombre à cause de la montée des eaux.
Un peu plus loin, Faustin pointe du doigt un large morceau de plage où des vaches paissent, le corps à moitié submergé dans l'eau. C'est ici que se trouvait la rizière de son père quand il était enfant.
Il y a peut-être d'autres raisons, mais de ce que je vois, tout ça c'est à cause de la pluie. Les gens ne peuvent plus cultiver car il n'y a pas assez de pluie. Et quand il pleut, toute la zone est inondée.
La pluie fait effectivement partie des raisons expliquant la bonté des eaux du lac. Même si moins fréquents qu'avant, les épisodes pluvieux directs, ainsi que ceux qui alimentent la vingtaine de cours d'eau qui se jettent dans le lac, sont désormais plus intenses. Des changements climatiques qui, au-delà de transformer les paysages, affecte de plus en plus les populations les plus vulnérables de l'île, comme l'explique Joyce Komania de l'organisation Centre juridique et des droits de l'homme à Dar es Salaam.
Les hommes ont beaucoup émigré vers d'autres endroits, donc les femmes sont abandonnées avec les enfants sans ressources. Nous avons aussi noté beaucoup d'abus sur les enfants et une baisse du taux de présence dans les écoles, car même les enfants sont forcés de travailler pour soutenir la famille.
To sustain their family. Le long de la plage, John Ngaile marche sur des pierres englouties. Ce sont les restes de sa maison.
J'ai vécu 15 ans ici et j'ai essayé de construire un mur pour éviter que l'eau ne rentre. Mais elle a finalement tout emporté. Ça m'a complètement changé. Je suis désormais très pauvre.
Avec sa maison, il a aussi perdu ses revenus puisqu'il louait des chambres. Aujourd'hui, plus de 40 millions de personnes vivent dans le bassin du lac Victoria et sont menacées par la montée des eaux. Elodie Goulesque, Ukerewe, RFI.
Et c'est sur le lac Victoria que se termine cette demi-heure africaine, réalisée et préparée avec Laurent Corot, Luna Grison et Pierre Vallée. Merci à eux et merci à vous de nous avoir suivis.
Merci Nicolas Sûr. Vous restez avec nous, on se retrouve dans une minute pour le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. A tout de suite.
Ce dimanche, sur RFI, idée Pierre-Edouard Deldic.
Philosophe politique spécialiste de la gauche, Stéphanie Rosa refait surgir dans un livre une notion oubliée aujourd'hui, le marxisme humaniste. Elle nous en parle.
Le marxisme humaniste, c'est la tradition marxiste qui se réclame de l'héritage des Lumières, ou du moins qui se situe explicitement dans son prolongement.
Idée proposée par Pierre-Edouard Deldic, tous les dimanches à 17h10 TU sur RFI.
Vous êtes chanteur ou musicien d'Afrique, des Caraïbes ou de l'océan Indien ? Vous rêvez de développer votre carrière à l'international ? Inscrivez-vous en ligne pour le prix Découverte RFI avant le 20 novembre.
Le lauréat ou la lauréate aura la chance d'être à l'affiche d'un concert diffusé sur RFI et bénéficiera d'une tournée en Afrique et d'une aide à la création.
Retrouvez toutes les étapes et actualités du concours sur prixdécouverte.com et sur Facebook, Insta et TikTok.
En partenariat avec l'Institut français.